Merci Père éternel parce que tu nous as parlé par ton Fils. Amen. J'aime pas être si haut là, j'ai l'impression de dominer là. Ça... C'est à cause des retours, c'est ça, c'est fun, hein? Ok. Ça va, vous n'êtes pas trop chaud parce que moi, je crevais là. Je ne sais pas si vous allez réussir à m'écouter une heure et demie comme j'ai prévu. Non, c'est une blague. Hein. Chaque jour, je pense, quand même, je pense, dans le monde, des centaines de personnes passent des entretiens d'embauche pour trouver un boulot, un job. Ils sont reçus pour se présenter et pour évoquer leur qualité, leurs points forts. Tout cela dans le but d'être embauché dans une entreprise, petite ou grande. Tout le travail du recruteur est donc de discerner leur personnalité, points forts, points faibles, ce qu'ils n'ont pas dit mais que peut-être on peut voir. L'entretien est là pour voir la personne, la connaître au travers de ses attitudes, de ce qu'il a déjà fait, mais aussi à travers de ce qu'il dit, ses paroles. Ces paroles sont analysées, scrutées et passées au peigne fin par le recruteur. La parole révèle l'être, la personnalité. Elle est nous. La conversation qui s'engage va mettre en évidence ce que nous sommes, ce qu'ils sont. Eh bien, en un certain sens, Dieu a fait un jour la même chose. Il s'est révélé à l'humanité et pour cela, il s'est mis à parler. Non plus seulement comme dans un entretien d'embauche où certains traits de notre personnalité sont volontairement cachés, mais au grand jour et de manière totale, totalement transparente. Sans doute nous aurions attendu quelque chose d'autre, peut-être. Je vous invite à découvrir le Dieu qui a parlé à l'humanité tout entière pour chacun d'entre nous. Je vous invite à lire avec moi Hébreux 1 à 4. Hébreux 1 à 4. Ah. Chapitre 1, versets 1 à 4. Vous avez tous eu peur là. C'est à la fin du Nouveau Testament. Hébreux 1, versets 1 à 4. Après avoir autrefois à bien des reprises et de bien des manières parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers. L'auteur de l'Épître aux Hébreux demeure toujours inconnu. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que cet auteur est sur une autre planète. Une planète où Dieu parle régulièrement à l'humanité. En effet, l'un des obstacles à la foi en Dieu pour beaucoup de personnes en France est son silence. Il faudrait qu'il me parle pour que je croie en lui. Il faudrait qu'il vienne sonner à ma porte pour que je puisse accepter qu'il existe. Il faudrait qu'il vienne à moi et se révèle pour qu'enfin je le voie. Mais bizarrement, il ne le fait pas. Ou plus exactement, pas en France. Son silence et son absence sont donc autant de preuves de son inexistence. Je n'ai donc pas assez de preuves pour croire en ce Dieu absent, silencieux et lointain. Pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au contraire que Dieu a parlé et qu'il n'a cessé de le faire par le passé. Verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé. L'auteur de l'Épître s'adressait à des Juifs convertis au christianisme et qui étaient en proie à un doute. Ce Dieu qui semble silencieux n'a eu de cesse de vouloir parler à nos pères par les prophètes. Il n'est pas resté silencieux. Il a essayé de nous parler par le passé, plusieurs fois et en des circonstances multiples. Par des moyens, par les prophètes, de Samuel à Malachie, je n'ai cessé de m'adresser à vous, sans que cela ne change réellement quelque chose. Dieu a donc mis ses paroles dans leur bouche. Il est vrai que la parole n'était pas directe, car Dieu parlait par l'intermédiaire de certains hommes ou femmes. Dieu n'a donc eu de cesse d'essayer de rentrer en contact avec l'homme, de renouer la relation qui le liait initialement. Dieu désirait présenter son amour pour l'humanité. Dieu désirait montrer combien il s'intéressait à elle. Mais nos pères n'ont pas considéré son propos. Bien différent d'un silence, l'homme ne voulait pas entendre les avertissements des prophètes. Dieu, voyant l'échec de la transmission de sa parole par l'intermédiaire des hommes, a souhaité le faire directement. Dieu est donc intervenu dans l'histoire et a parlé par son Fils. Au cœur du message biblique, au centre de la foi chrétienne, cette parole est la porte d'entrée pour une relation vivante et permanente avec Dieu. Et cela par un moyen précis, le Fils. En effet, Dieu, dans ces derniers temps, nous dit le texte, nous a parlé par le Fils. Dieu n'est pas resté muet et lointain, distant. Non, Dieu nous a parlé par le Fils. La volonté de Dieu est claire dans la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu relationnel. Cette fois-ci, il désire être entendu, vu sous un jour nouveau. Il ne veut plus passer par des intermédiaires, il veut directement parler à sa créature, l'humanité. Et pour cela, il décide de s'incarner, de venir sur terre en prenant la condition d'un homme, le Fils. Connu sous le nom de Jésus-Christ. Non plus seulement des paroles retranscrites sur les tables de pierre avec les 10 commandements, mais avec des paroles, ni par le biais de paroles d'hommes, mais une parole vivante qui a pris la forme d'une vie. Dieu veut renouer la relation avec sa créature. Dieu, à travers cette parole, fait le chemin vers l'homme. Il crée le trait d'union vers lui et il espère. Il espère que celui-ci va écouter sa parole. Il espère qu'il va finir par comprendre sa personnalité et tout son être. Il espère que la communion qu'il avait avec l'humanité soit rétablie par ce Fils. Dieu n'est pas resté impassible devant notre incapacité à le voir, à lui parler. Non, il a décidé une nouvelle fois de faire le premier pas. Comme après une dispute violente que vous auriez pu avoir avec votre enfant, votre époux, votre épouse, votre collègue de classe, votre collègue de travail, et que vous souhaitiez renouer la relation par la rencontre avec cette personne blessée, malgré le fait que vous n'ayez peut-être pas eu tort, Dieu a fait la même chose. Même si cela devait lui coûter très cher, Dieu était prêt à le faire. Et il l'a fait. Et cela pour révéler une nouvelle fois ce qu'il est avant tout un Dieu relationnel et d'amour, qui nous aime au-delà de tout ce que nous imaginons et pensons. Sans doute, le message central de la Bible. Dieu a voulu par cette parole nous donner la possibilité d'aller à sa rencontre. Dieu veut nous parler en quelque part, que nous rentrions dans son intimité, que nous devenions ses enfants. Si vous recherchez Dieu et si vous avez soif de lui, si vous avez soif d'une relation avec un Dieu qui vous aime, alors écoutez cette parole que Dieu vous a adressée par son Fils, à savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le moyen pour être sauvé, c'est-à-dire de vivre pour toujours avec lui, malgré après la mort. Mes femmes, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui que Dieu m'ait parlé par le Fils ? Eh bien, ça change tout. Ce n'est plus des hommes qui vont être les représentants de Dieu, mais un Fils qui a pris la forme et la condition d'un homme, une personne qui a fait le chemin vers nous et qui est en tout point semblable à Dieu. Dieu serait donc venu à nous pour nous parler, pour se révéler lui-même. Je vous invite donc à découvrir ce Fils, Jésus-Christ, que Dieu a utilisé pour être sa parole. Verset 2. Ce Fils, Dieu nous a parlé par ce Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. L'auteur de l'Épître nous énonce que ce Fils a été établi par Dieu comme héritier de toutes choses. Dans la pensée hébraïque, la notion d'héritage n'a pas le même sens que pour nous. La notion ne définit pas seulement la succession, mais la notion de possession légitime, liée à un état. Un exemple, le premier-né dans les familles hébraïques était le bénéficiaire de la plus grosse partie de l'héritage. Et cela parce que Dieu l'avait établi comme tel. De la même manière, Dieu a établi, Dieu a constitué le Fils comme de droit celui à qui tout revient, comme Fils légitimement reconnu comme possesseur de tout. Le Fils possède tout. Dieu a donc tout fait pour le Fils, y compris la création. Tout était pour lui, tout est sous son pouvoir. Il est donc la cause de tout, il est le plaisir de Dieu. Tout a été donné pour lui. Ce Fils est ce qu'il a de plus précieux. Les hommes disent que si Dieu existait, il se serait occupé beaucoup mieux de notre monde et de nous-mêmes. Pourtant, en souhaitant nous parler par le Fils, il a utilisé le moyen le plus précieux à ses yeux pour renouer la relation, son Fils. De la même manière, c'est comme si, pour renouer une relation avec un ami, vous lui offriez un cadeau en guise de réconciliation. Et ce cadeau est ce qu'il y a de plus précieux pour vous, puisque vous avez tout fait pour lui. Seriez-vous prêt à imaginer que pour renouer la relation avec votre ami, vous donniez votre vie même, à savoir votre fils, votre fille. Connaissez-vous l'histoire de l'enfant de paix ? C'est une histoire vraie qui se passe au sein de deux tribus africaines. L'une d'entre elles vivait il y a quelques siècles à l'époque et elle exaltait la traîtrise comme valeur centrale. Cannibale de surcroît, ce qu'elle recherchait, c'était gaver ses proies humaines, entre guillemets, et les tuer en les prenant en traître. C'est une histoire vraie. Pourtant, un jour, cette tribu va tuer un membre d'une autre tribu. Et c'est alors qu'une guerre est déclarée entre les deux. Un missionnaire est là pour évangéliser cette tribu, leur annoncer l'évangile, et il essaye de trouver une solution à cette guerre entre les deux tribus. Mais la solution est trouvée au sein de cette tribu pour envisager la paix. Le chef de chaque tribu donne son dernier né au chef de l'autre tribu. Tant que ses enfants seront en vie, ses enfants seront le gage de la paix entre les tribus. Ce seront des enfants de paix. Suite à cette histoire, l'évangéliste qui annonçait l'évangile et qui parlait que Judas avait trahi Jésus, ça c'était le moyen qui faisait rire la tribu, a trouvé un moyen pour montrer ce que Dieu avait fait à travers son fils. Ce fils est cet enfant de paix pour nous. Il est aussi celui qui a été donné pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Mais le fils, nous dit le texte, cette parole de Dieu a aussi tout créé, par lequel il a aussi créé les mondes. Cette expression est assez floue et pourrait être traduite de la manière suivante. Il a aussi créé le monde et la succession des âges. Ce fils n'est donc pas seulement l'héritier, mais le créateur de l'univers. Non pas seulement d'un événement passé qui serait désormais laissé en friche, mais bien au contraire, le fils a créé la succession des âges. Il a donc une maîtrise non pas statique, mais dynamique sur la création. La création est certes sous son contrôle, mais ce que l'auteur veut dire ici, c'est que le temps est également sous son contrôle. Ce fils domine le déploiement du temps depuis les origines du monde. Non, le fils n'est pas une parole de peu de qualité, non. Ce fils est tout puissant. Il a tout créé. Mais que faire avec ça? Le temps est aussi notre temps. Et Jésus est souverainement, est souverain. Il a le contrôle sur notre temps. Nous faisons partie de sa création. Certes, notre volonté est propre et totale, et Dieu ne vient pas nous enlever cette responsabilité. Toutefois, rien ne progresse dans l'histoire sans son accord. Mais Sam, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu as en ce Fils, Jésus-Christ, un Dieu tout-puissant qui a une maîtrise sur la création et sur son développement. Rien n'est impossible pour lui. Il a tout dans sa main. Cette connaissance devrait pouvoir alimenter chez nous, chez le croyant, la confiance et une prière constante. Connaissant cette puissance, nous devrions sans cesse prier pour notre monde, pour ceux qui souffrent, pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ma vie. La prière auprès de ce Fils qui est aux commandes de l'univers devrait être notre respiration. Notre connaissance du Fils devrait nous donner une telle confiance en lui que nous ne pourrions passer une journée sans la lui remettre. Mais ce n'est pas tout. Le Fils, la parole de Dieu, est la révélation totale et parfaite de Dieu. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, ou étant le resplendissement de sa gloire et le rayonnement ou l'empreinte de sa réalité même. Il ne s'agit pas de ce que le Fils est capable de faire là, mais de ce que le Fils est en lui-même. Sans doute l'une des descriptions les plus hallucinantes sur le Fils. Il est le seul en qui se manifeste la gloire inaccessible et insaisissable de Dieu. Le seul médiateur entre Dieu non créé et les créatures créées. Comme la lumière nous révèle le soleil, le Fils est pour nous les rayons du soleil qui nous révèlent le soleil. Comme la lumière qui émane du soleil est de la même nature que le soleil, il en est de même du Fils et du Père. La gloire divine reluit dans la personne et l'œuvre du Fils bien mieux que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse dans la nuée et lui a fait voir sa gloire. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus-Christ est aussi différent de tous les autres hommes. Beaucoup d'hommes, comme Nietzsche ou Voltaire, étaient en opposition avec la religion chrétienne de leur époque. L'hypocrisie pour eux de l'Église et de ses représentants était insupportable. Toutefois, ces hommes ne faisaient pas l'amalgame entre la religion et Jésus. Jésus était vraiment différent pour eux. Nietzsche ne s'opposait pas à Jésus, dont il disait qu'il était le seul vrai chrétien. Un professeur communiste disait aussi « Les deux hommes les plus importants pour moi sont Marx et le premier, c'est Jésus. » Peu d'hommes et de femmes voient en Jésus un fou furieux. Non, sa proclamation de la non-violence, son amour qui se déversait contre la haine, sa mort pour ses amis, son pardon illimité pour ses bourreaux sont les marques d'une vie exceptionnelle, voire surnaturelle. Ce Jésus, dans ce qu'il est dit de divin et d'humain à la fois, ne laisse personne indifférent. Même les plus grands opposants à la foi, comme Nietzsche l'était. Et cela parce qu'il est le reflet de Dieu. Et c'est vraiment dommage que ces érudits n'ont pas su voir que Christ était la parole de Dieu pour eux. Christ est le reflet de la gloire de Dieu pour eux. C'est à lui qu'il faut regarder, pas aux hommes. On pourra toujours être déçu par des hommes, mais jamais par ce Jésus, le Fils, l'empreinte même de Dieu. Osez une rencontre avec Jésus. Pour cela, il suffit de lui remettre votre vie entre ses mains. Si vous ne savez pas comment faire, demandez-lui de tout votre cœur d'être votre sauveur et d'être votre Seigneur. Et soyez assurés que Jésus vous écoutera. Mais sachez aussi et soyez assurés aussi qu'il vous demandera de changer des choses dans votre vie en vous donnant toujours les moyens de le faire par son esprit. Mais le Fils est également aux commandes de l'univers. Encore une fois, soutenant, nous dit le texte, toute chose par sa parole puissante. Le Fils et son œuvre réapparaissent au premier plan pour montrer une nouvelle fois la relation d'investissement que le Fils entretient avec sa création. Un investissement vigoureux et continuel visant à soutenir la création, à la gouverner en vue de l'amener au but fixé. Le Fils est donc tout puissant pour maintenir et faire aboutir son plan. Loin d'être abstraite, cette réalité doit prendre vie en nous. Dieu est souverain sur nos vies. Même si notre responsabilité demeure, il a nos vies entre ses mains. Malgré nos souffrances, nos difficultés, notre vie parfois difficile, Jésus est souverain. Et il nous connaît. Il sait pourquoi nous passons par là. Jésus est souverain. On le chante, mais le vit-on? Nous avons Jésus qui connaît nos vies et qui est prêt à les gouverner si nous les lui remettons. La vie chrétienne n'en est pas facile pour autant, pas plus facile pour autant. Mais l'angle par lequel nous vivons change complètement. Nous avons une paix qui dépasse ce que le monde donne. D'ailleurs, un jour, un certain Jean Comarianos, un pasteur, a rencontré un moine bouddhiste et ce moine lui racontait qu'il cherchait la paix. Et Jean de lui répondre, « Mais moi, j'ai déjà la paix et celle-ci vient de Jésus-Christ qui vit en moi. » Le moine a été surpris par cette réponse, mais de manière encore plus surprenante, il a sorti une Bible où il a dit « C'est vrai ». C'est d'ailleurs pour cela que j'essaie de lui ressembler. Mais malheureusement pour ce moine, nous n'arrivons jamais à être comme Christ par nous-mêmes. Par contre, osons vivre en faisant confiance à Christ pour tout ce qui nous arrive. Non comme une fatalité, mais ayant comme juste perspective que Jésus-Christ est aux commandes de nos vies. C'est un challenge, et je ne dis pas que nous allons y arriver tous les jours, mais l'enjeu en vaut la chandelle. La connaissance de ce Fils est donc fondamentale pour nos vies. Mieux nous connaîtrons le Fils, plus celui-ci sera l'objet de notre adoration et plus aussi notre confiance en lui grandira. Mais ce n'est pas tout. Le Fils, parole de Dieu, a purifié le péché. Le texte nous dit « a fait la purification des péchés ». La parole de Dieu, à savoir le Fils, Jésus-Christ, ne pouvait rester insensible aux problèmes du mal et du péché. Le Fils, la parole parfaite de Dieu, ne pouvait laisser le problème du mal et de la souffrance sans réponse. En effet, la parole de Dieu, se voulant être un moyen de reconnexion à l'humanité mauvaise, un moyen de renouer la discussion et la communion, ne pouvait être possible que si le Fils réglait le problème du péché et du mal. Le mal et la souffrance sont d'ailleurs les plus grands obstacles à la foi des non-chrétiens. Pourtant, le Fils a réglé le problème du mal. Il a réglé une fois pour toutes le problème du péché pour l'humanité en prenant le péché et le mal sur lui à notre place pour nous purifier et que nous puissions avoir accès à Dieu. L'Épître aux Hébreux nous l'expliquera en détail par la suite. Et pour faire cela, il a dû mourir sur une croix en qualité, lui, de juste pour des injustes que nous sommes. Quel amour immense de la part de Jésus-Christ. Quel amour immense de la part de Dieu le Père qui désire nous parler et qui le fait par son Fils qui meurt sur la croix pour nous. Imaginez la scène. Vous êtes dans un procès et Dieu le Père vient de juger coupable tous les hommes pour le mal qu'ils ont commis. Pourtant, l'avocat général, le procureur de la République, le Fils, qui est garant du droit, se lève et dit au juge, son père, ils sont coupables, mais c'est moi qui vais payer à leur place et qui vais prendre la condamnation associée à ce mal, à savoir la mort. Complètement hallucinant. En cela, le Fils est aussi la parole parfaite de salut, du salut de Dieu pour les hommes. En un sens, le moyen de nous rendre purs pour accéder à Dieu, celui qui est saint et parfait. Le Fils est le moyen de nous reconnecter en 4G. Mais le Fils, parole de Dieu, a été glorifié aussi, nous dit l'Épître aux Hébreux. Verset 3 et verset 4. « Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom encore plus excellent que le leur. » Nous sommes au sommet et à la fin du parcours du Fils. Celle-ci atteint les hauteurs célestes. On va suivre l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Sa place à côté de Dieu, décrit dans notre passage comme la majesté, rehausse d'autant l'éclat du Fils qui s'assied à côté de la majesté. La place à la droite est aussi caractéristique d'une place royale. Mais ce n'est pas tout. Le verset 4 prolonge la présentation de la nouvelle condition, celle de l'accès auprès du Père, en passant du moment inaugural, sa place à côté du Père, à la contemplation des privilèges acquis, à savoir d'être bien supérieur aux anges, nous dit le texte, et d'être héritier d'un nom encore plus excellent que le leur. La supériorité de la parole de Dieu par le Fils est sans égale par rapport à celle de l'Ancien Testament, et notamment par rapport à tous les médiateurs humains et divins qu'étaient les anges. L'auteur de l'Épître aux Hébreux voit dans ce parcours du Fils une progression évidente et l'apogée de l'histoire. C'est pour cela qu'il ne veut pas que ses auditeurs reviennent en arrière. et reviennent à leurs premiers amours, entre guillemets, à la foi hébraïque, seule. Dieu le Fils était de toute éternité avec le Père. Sa venue sur terre est sans doute la plus grande humiliation qu'il a dû subir. Il a été condamné, lui le juste, pour des injustes. Toutefois, son périple ne s'est pas arrêté là. D'avoir obéi à son Père pour sa mission, Dieu lui a rendu l'honneur qu'il méritait. Il l'a donc fait asseoir à son côté, dans le ciel, et lui a confirmé le nom de Fils. Lui, le Fils d'éternité, est confirmé par son passage sur terre comme le Fils, par son passage dans l'humanité. Le magnifique nom par lequel l'humanité peut être sauvée, délivrée du mal, pour une vie en communion avec Dieu. En conclusion, aujourd'hui, comme le dit les Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu n'est pas resté silencieux. Non, bien au contraire, Dieu nous a parlé. Il nous a parlé de multiples fois et surtout dans les derniers jours, nous dit le texte. Il nous a parlé par son Fils. Et ce Fils possède tout. Ce Fils a tout créé. Ce Fils est la révélation totale et parfaite de Dieu. Ce Fils est aux commandes de l'univers. Ce Fils a purifié le péché. Ce Fils a été glorifié. Le seul intermédiaire entre l'humanité et la divinité, le seul moyen nous permettant de connaître Dieu. Jésus-Christ, le visible, fait découvrir l'invisible. Jésus-Christ, le parfait, fait découvrir la sainteté et l'exigence d'un Dieu saint. Jésus-Christ, le créateur, fait découvrir le Dieu de toute éternité. Jésus-Christ, le glorifié, fait découvrir le roi de gloire. Jésus-Christ, le sauveur, donne accès à Dieu le Père. Aujourd'hui, l'humanité tout entière ne peut être indifférente à Jésus, qu'on le veuille ou non. Nietzsche a un jour dit, dans sa jeunesse, que si je ne le rencontre pas, je n'aurai pas de sens à mon existence. Dieu n'a pas attendu que vous l'appeliez pour vous parler. Dieu n'a pas attendu les cris d'un monde qui se perd pour venir à sa rencontre. Il est venu par le moyen de son Fils. Allons-nous rester indifférents à ses paroles? C'est à nous seuls de le décider. Je vous invite à prier. Père éternel, tu vois que parfois nous vivons des moments où nous nous sentons vraiment seuls. Des moments où nous avons envie de crier que tu n'es pas là. Pourtant, tu n'es pas resté lointain et non seulement par de cet amour que tu avais, tu nous as parlé et tu nous as parlé par ton fils qui était la chose la plus précieuse à tes yeux et tu as désiré nous donner la possibilité d'être de nouveau en contact avec toi. Et aujourd'hui, tu désires la même chose, nous parler à travers de ce fils et donner la possibilité, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas ce matin, à te connaître par toi seulement, par ton Fils seulement. Seul le Fils nous permet de connaître le Père. Et merci, Père éternel, parce que ton Fils aussi, pour nous qui sommes croyants, nous donne la possibilité d'une relation personnelle avec toi. Et même si nos vies, parfois, sont difficiles, et si où le silence nous semble pesant, es là, à nos côtés, et tu l'as parce que ton Fils est venu sur la terre. Merci Père éternel pour ton Fils Jésus-Christ, qui est vraiment celui qui est digne de toute notre adoration et de notre louange.